Jean-Luc Marty, voyageur, journaliste et écrivain, vient de sortir Un garçon d'après-guerre, prix Ouest 2025. Il sera présent à la Biennale du Livre le 12 août, place de la Pilée. Bonjour Jean-Luc Marty.
Bonjour.
Votre livre suit un personnage qui cherche à comprendre qui était son père. On le suit à travers ses souvenirs d'enfance dans les années 60 et son enquête 40 ans plus tard pour mettre au jour le passé maquisard du père. Comment êtes-vous venu à ce sujet ?
Eh bien, je me suis retrouvé confronté un jour lors d'une conférence que je donnais à Angoulême sur le voyage, à l'époque où je dirigeais la revue Géo, à un homme qui est venu me voir à la fin de la conférence et qui m'a salué et qui était beaucoup plus âgé que moi et qui m'a dit « Je ne pouvais que venir vous voir parce que j'ai fait la guerre avec votre père. » Nous étions dans le maquis tous les deux en 44. Donc c'est vrai que je ne m'attendais pas du tout à cette rencontre dans ce contexte-là. Et c'est un peu comme ça que tout a commencé parce que cet homme, en fait, m'a révélé, m'a appris tout ce que mon père, finalement, ne m'avait pas raconté de cette période qui a été celle de sa vie, ce moment où il a fait la guerre, effectivement, et qu'il est rentré dans le maquis en Dordogne Nord alors qu'il avait 16 ans et demi, 17 ans à peine, quoi.
Et donc, vous avez mené une enquête et qui vous a ensuite amené à écrire ce livre.
Oui, c'est-à-dire que c'est vrai qu'à partir de là, il m'a donné énormément de documentation concernant ce maquis qui s'appelait la section spéciale de sabotage. À partir de ces documents, il y avait un certain nombre de lieux, évidemment, cités, puisque c'était les lieux de leurs opérations. Et j'ai eu l'idée de faire ce voyage, finalement, une espèce de voyage au long cours de tous ces lieux dans lesquels mon père s'est retrouvé à se battre, en fait, contre les Allemands.
Et donc, on retrouve ça dans votre livre, mais ce n'est pas non plus autobiographique. Il y a une forme de décalage, et notamment le personnage principal est photographe. Pourquoi ce choix ?
Bien, c'est un milieu que je connais un peu, parce qu'ayant dirigé Géo, j'ai fréquenté beaucoup de photographes et de photojournalistes. En plus, ça collait plus que le fait que ça soit un écrivain, c'est-à-dire qu'il fasse ce voyage, parce que pour moi, j'allais me retrouver immergé dans des géographies finalement très, très différentes. Et la géographie, pour moi, ce qu'on appelle le paysage, si vous voulez, plus communément, est un déclencheur d'émotions et m'aidait aussi à pouvoir me rapprocher finalement de ce père combattant de l'époque. Et être photojournaliste, c'est un type qui travaille sur les zones de conflit beaucoup, il travaille en couleur, il travaille avec des grands objectifs. Et là, tout d'un coup, il s'est retrouvé à travailler en noir et blanc. Il a exhumé un Leica qu'il avait acheté, dont il ne s'était jamais vraiment servi. Et ça donne tout d'un coup une photographie totalement différente, parce que beaucoup plus intime, bien évidemment, que de photographier l'actualité. Et le but du livre, l'un des enjeux du livre, est de rentrer dans cette intimité-là, ce qui permet au narrateur, moi en l'occurrence, d'approcher mon père d'une façon qui m'avait été jusque-là totalement inconnue.
Il y a cette intimité, mais il y a aussi des rencontres. Il y a beaucoup de rencontres, toute une galerie de personnages secondaires très divers qui renvoient à plein de périodes différentes, à la question de l'Indochine, à la question de l'OAS, de la guerre d'Algérie. Vraiment un univers extrêmement complexe. Pourquoi avoir choisi de raconter ça via toutes ces rencontres et toute cette galerie de personnages ?
En fait, le thème de mon livre qui a fait que j'ai eu envie d'écrire ce livre, c'est le thème de l'après-guerre. Et donc, à travers l'exemple de mon père, qui était quelqu'un sorti du maquis et qui finalement, on s'en rend compte dans le livre, n'est jamais réellement sorti de la guerre. Tous ces personnages rencontrés ont tous à voir avec un après-guerre. Alors ça peut être la guerre du Kosovo, ça peut être côté milicien, la guerre de 39-45 avec cette vieille femme-là qu'on retrouve dans le cimetière. C'est bien évidemment la guerre d'Algérie. C'est, j'allais dire, le personnage aussi de cette ville, Lorient, dont je suis originaire, qui est elle aussi, lorsque je suis jeune, une ville d'après-guerre, en cours de reconstruction. Donc, je voulais que mon livre baigne dans cette atmosphère-là, d'après-guerre différente, avec des personnages qui n'ont pas tous les mêmes après-guerres. Pour moi, c'était vraiment important. Et je trouvais que c'était en résonance aussi un petit peu avec le monde contemporain, avec ce qu'on peut être amené à malheureusement à vivre ou, si ce n'est moi, des gens.
Et vous avez choisi de mettre l'enquête de ce personnage-là en 2002, donc au moment d'une première victoire électorale du Front National. Et d'ailleurs, vous rappelez les origines vichistes du Front National. Et donc, pour vous, il y a vraiment un écho entre notre actualité et cette après-guerre.
C'est vrai que situer le livre en 2002, pour moi, c'était une année qui a été importante pour moi et beaucoup d'autres. C'est-à-dire que dès lors que vous commencez à écrire sur finalement un fait de résistance, 2002, c'est quand même la présence au premier tour des élections présidentielles de Jean-Marie Le Pen, quoi. Et un parti, à l'époque, le Front National, co-créé par un ancien type de la Waffen-SS. Ça ne peut pas laisser indifférent. D'autre part, 2002, c'était une année aussi qui m'intéressait beaucoup parce qu'il y avait eu en septembre 2001 les attentats du World Trade Center. Et là aussi, je pense que c'est une année, j'allais dire, qui nous a un peu bouleversés finalement à mains égards du point de vue tout d'un coup d'une tension qui s'installait, qu'un certain nombre d'attentats islamistes avaient déjà, amorcé, hein, je cite celui de Villeurbanne, etc. Mais pour moi, 2002, ça a été une année charnière dans ma vie.
Est-ce que dans ces ruines de l'après-guerre, est-ce que vous avez trouvé des choses qui nous aident à mieux comprendre, à vivre différemment ce présent ?
Ça, j'aurais du mal à répondre très, très clairement. Ce que je sais, c'est que malheureusement, toutes les après-guerres se ressemblent. Ce que je trouvais intéressant, c'est la façon dont finalement, cet adolescent que j'étais, moi aussi jeune, a été marqué par ça, parce que vous ne vivez pas impunément avec un père qui, issu du maquis et qui garde du maquis et de la guerre, finalement, une forme de violence, non pas domestique, mais une forme de violence. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est habitué à se battre, et malheureusement, il se bat. C'est quelqu'un qui est habitué aux armes, et il continue à se servir des armes. Et moi, enfant de cet homme, je ne peux pas ne pas être, j'allais dire, quelque part, touché ou me retrouver dans une forme de, comment je pourrais dire ça, pas d'identification, c'est pas le mot, mais quand même très troublé par ça, au point moi aussi de commencer à manier les armes alors que j'ai à peine 16 ans et que je ne comprends pas tout à fait ce qui m'arrive. Et ce qui est contemporain, je pensais à tous ces enfants finalement qui vivent des guerres aujourd'hui, beaucoup plus, non pas plus cruelles que celles de 39-45, mais enfants dans un contexte beaucoup plus cruel que le mien. Après-guerre, qui n'est pas un contexte cruel. Moi, je nais en période de paix 5 ans après la guerre. Ça m'a permis aussi, peut-être ça peut permettre de comprendre comment ces enfants sont des victimes de guerre, finalement, indépendamment du fait qu'ils y meurent beaucoup en ce moment, mais indépendamment de ça, quels que soient les conflits dans le monde, et Dieu sait s'il y en a, mais surtout en quoi ça m'a permis de comprendre, peut-être certains enfants n'avaient finalement, eux aussi, à leur tour, pas d'autres choix peut-être que de prendre des armes à un moment à la suite de leur père ou du grand-père, de la même façon que mon père a pris les armes, finalement à la suite de son propre père qui avait fait 14-18.
Donc si je vous suis, d'une certaine manière, vous changez la perspective, c'est plus tant la guerre que la difficulté de la reconstruction.
Oui, c'est le retour à l'intime, finalement, qui est compliqué. C'est comment les hommes rentrent de cette période-là. On le voit aujourd'hui avec ces photos, par exemple, de soldats ukrainiens qui rentrent, qui sont libérés par les Russes. Et on lit sur les visages la complexité qui est la leur, la dureté, la douleur, la souffrance. Dans quel état rentrent-ils chez eux et comment vont-ils vivre, j'allais dire, cette intimité de laquelle ils ont été privés pendant des mois. Ce qui est important, c'est qu'il y a cette histoire de double déracinement qui est racontée dans le livre. Il y a le déracinement du père de son adolescence, puisqu'il part dans le maquis. Et il y a le déracinement de l'enfant, qui est un second récit à l'intérieur du livre, qui est mon histoire aussi, qui est que quand j'ai 10 ans et demi, mon père se fait arrêter totalement par erreur, alors que nous habitons Lorient à l'époque, qui est une toute petite ville, hein, suspecté d'avoir fait partie de l'OAS. Et c'est mon propre déracinement de mon enfance à partir de là. Parce que dès lors que votre père est arrêté, quel que soit le motif, ça devient quelqu'un, lorsque vous avez 10 ans et demi, qui est en prison. Mon père est resté 6 mois et quelques en prison. Et ça m'a effectivement totalement bouleversé, j'allais dire, au niveau de mon existence. Et je pense que ça a été mon premier voyage, finalement, une forme d'exil à la fois intérieur et extérieur, à l'intérieur de ma propre ville.
On a l'impression que ce que vous racontez, c'est aussi ce qui précède l'écriture et ce qui crée la nécessité de l'écriture chez vous.
Oui, c'est-à-dire que oui, tout à fait. Alors, ce roman est probablement le plus, entre guillemets, autobiographique, même si je n'ai pas voulu céder au style de l'autobiographie, et que j'accorde beaucoup d'importance à l'écriture, à la forme, voilà, c'est quelque chose qui est important pour moi. Je trouve que la littérature a ça de formidable, c'est qu'elle peut créer des liens totalement inattendus dans une atmosphère qui peut être noire, qui peut être chaotique. Moi, l'idée, c'était quel lien, finalement, je peux entretenir avec ce père avec lequel je n'ai pas vécu, parce que je n'ai vécu que 10 ans de ma vie avec lui, c'est très peu. Et en quoi ce lien peut passer totalement par un autre mode, un autre contenu que celui juste du rapport père-fils habituel, de l'éducation, puisque ça n'a pas eu lieu dans notre cas. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire au bout de ce voyage? Et c'est ça, en général, le but d'un voyage, c'est de créer du lien, c'est de découvrir une part inconnue de soi-même qui va rencontrer la part de l'autre à un moment. Comment, moi, tout d'un coup, je vais, à la fin du livre, rencontrer ce père d'une façon totalement inattendu, en tout cas qui ne correspondait pas du tout à l'image que je pouvais avoir du père, et que ce lien-là, lié plutôt au poétique, j'allais dire, puisse se créer entre nous.
Donc l'écriture devient un vecteur de lien.
Oui, c'est un lien, c'est une façon de, comment dirais-je, j'ai pas de grande théorie sur l'écriture, mais c'est une façon d'aller travailler et d'entrer dans la complexité, à la fois de soi-même et du monde, à la fois de ce qui peut vous être proche, par exemple des parents, ou de ce qui peut vous être lointain. Et à l'intérieur, je pense à des pays, évidemment, je pense à des zones très particulières du monde. C'est cette idée de complexité, moi, qui m'attire dans l'écriture.
Et d'ailleurs, dans votre livre et dans votre style, on voit qu'il y a un refus de... Disons que vous ne mettez pas en avant une grande écriture à l'Académie française. C'est vraiment une écriture qui part du bas, qui part de la rencontre, qui part de ce qui se passe dans le réel.
Oui, c'est-à-dire que moi, j'ai été très influencé par l'écriture de voyage, le travel writing anglo-saxon, et j'ai eu envie, et d'ailleurs, la plupart de mes livres sont sur ce ton, c'est-à-dire, j'aime bien partir et embarquer, hein, comme on embarque sur un bateau, quoi. Hein. On embarque, et à partir du moment où on embarque, on se retrouve dans un espèce d'état de vigilance exacerbée où tout fait sens, la géographie, le paysage, les gens rencontrés, la lumière, etc. C'est donc un état, j'allais dire, le déplacement, le mouvement, le voyage très particulier, et c'est cette façon-là dont je me suis servi pour écrire ce livre.
Mais un voyage à l'intérieur de vous-même, cette fois-ci.
Oui, je pense que le voyage est avant tout intérieur.
C'est vrai qu'il y a de très belles pages dans ce livre sur ce que vous appelez la manière portuaire d'être au monde. Cet éphémère, cette légèreté de l'être. Mais pourtant, ça fait 25 ans que vous venez à L'Île-Dieu. Qu'est-ce que vous venez chercher ici?
Ben, L'Île-Dieu, la première fois que je suis arrivé à L'Île-Dieu, il y a maintenant 27 ans, je crois. Moi, je suis de Lorient, hein, d'origine. Donc, je suis quelqu'un qui a fréquenté énormément Belle-Île, Ouatt, Édic, enfin, toutes ces îles jusqu'à l'île de Saint, etc. Et c'est vrai que je ne connaissais pas L'Île-Dieu. La première fois que je suis arrivé à L'Île-Dieu, mon choc, en fait, ce qui tout d'un coup m'a éveillé à cette île, était la présence des bateaux de pêche, notamment des thoniers à l'époque, puisque les ports, notamment dans les îles bretonnes, ont été quasiment désertés. Et tout d'un coup, je me retrouve à L'Île-Dieu et je vois une flottille de pêche comme je ne voyais plus ailleurs dans les îles du Ponant. Donc, ma première émotion a été celle-là. Réellement, moi, j'ai connu Lorient à l'époque où le port de pêche, le port de commerce, Kergroise, Kerroman étaient des lieux très fréquentés, où les navires de commerce étaient nombreux, où il y avait une vraie flotte de pêche. Voilà, avec plusieurs armateurs, et tout d'un coup de retrouver ça à L'Île-Dieu alors qu'ailleurs ça avait disparu, je reconnais que c'est ça en fait qui m'a attiré. Et puis après, dans un deuxième temps, la beauté de l'île, quoi, cette côte sauvage qui est absolument magnifique, et les gens, voilà, les îlets que j'ai pu rencontrer, qui étaient la plupart anciens marins, qui avaient embarqué très jeunes sur les thoniers, et voilà, avec qui j'ai sympathisé, qui sont restés des amis depuis 25 ans.
Donc L'Île-Dieu, c'est une île du voyage, d'une certaine manière.
Quelque part, c'est comme toutes les îles, sont des lieux de passage et en même temps sont des lieux où on se fixe. C'est comme un quai, une île, pour moi. Vous y faisiez allusion, hein, tout à l'heure, ce côté portuaire. Moi, je vis beaucoup dans des lieux où ça arrive et où ça part. Voilà. Il y a une espèce d'entre-deux, là, qui me convient bien, quoi, ni d'ici, ni d'ailleurs.
Pour découvrir votre livre... Un garçon d'après-guerre qui a reçu le prix Ouest 2025. Et pour vous rencontrer, Jean-Luc Marty, c'est rendez-vous donc à la Biennale le 12 août de 10h à 14h, place de la Pilée. J'en profite d'ailleurs pour remercier l'association Une île des auteurs et sa présidente Marie-Laure de Cazotte pour l'organisation de ces rencontres. Merci beaucoup, Jean-Luc Marty.
Merci à vous, Martin.